Chapitre 2 Parachute. Les jeunes revenaient d'une journée exceptionnelle. Ils s'étaient pour la première fois de leur vie élancés dans le vide. Ils avaient chuté quelques secondes à grande vitesse vers la surface terrestre, avaient ouvert un parachute et achevé leur saut sans encombre. Les parents, singulièrement fiers de leur effort d'imagination, avait eu l'idée, à l'occasion des dernières fêtes de Noël, de leur offrir une smart box. Thibaut et Maud n'ignoraient pas que leur garçon recouvrait, à leur façon, leur âme d'enfant à l'approche des réjouissances de fin d'année. Ils auraient aimé des cadeaux étonnants, amusants et même susceptibles, les rêves ne comportant a priori aucune limite, de les transporter comme par magie vers le lointain territoire de leurs émotions d'autrefois. Ces désirs étaient, compte tenu de leur âge, depuis longtemps difficiles à satisfaire, et ils avaient dû maintes fois se contenter d'une banale enveloppe. Il l'avait bien évidemment accepté avec la plus grande gentillesse, mais avec la smart box du dernier Noël, Thibaut et Maud n'avaient pas démérité. La surprise avait été au rendez-vous, un vrai cadeau avait été déposé au pied du sapin. Les jeunes avaient choisi pour leur expérience aérienne l'aérodrome de Belle-Île-en-Mer, situé à quelques milles de Kerbihan. Le soir du grand jour, après leur saut dûment filmé et photographié, Thibaut et Maud les attendaient devant le débarcadère de Quiberon. Le ferry arriva, libérant la foule de ses passagers. Les trois acolytes se dirigeaient vers le parking où était garée la voiture. Maud, assise au volant, ainsi que Thibaut à ses côtés, les voyait approcher. Leur démarche, rapide et légère, témoignait de l'harmonie du trio. L'enthousiasme se lisait sur leur visage. Ils montèrent dans la voiture et racontèrent, tout en riant et en blaguant, les exploits de la journée. Maud les écoutait. Avant de quitter la maison, elle avait réfléchi à la suite des événements. Elle aurait aimé que Thibaut se trouve ce soir-là libéré des contraintes de cuisine et de service de table. Elle lui en avait parlé et tous deux avaient convenu qu'il serait sans doute plus facile et plus amusant d'abandonner pour une fois le jardin de la maisonnette. Ils iraient au restaurant. L'idée ne déplairait pas aux jeunes. Ces derniers ne se préoccupaient certes pas de l'intendance matérielle, ils se contentaient de prendre place à l'heure du dîner dans le mignon jardin et de voir leurs assiettes gentiment garnies, de mets adaptés à leur goût personnel. Thibaut s'en assurait auprès d'eux avant d'imaginer les menus. Mais ils ne détesteraient très certainement pas, pour un soir, une ambiance quelque peu différente, pas plus qu'ils ne dédaigneraient de réfléchir à leur plat préféré du moment parmi ceux proposés sur une carte. Les parents évoquèrent leur projet de restaurant, les jeunes exprimèrent leur accord immédiat. Deux jours plus tôt, les parents étaient déjà venus les chercher à l'arrivée du ferry en provenance de Belle-Île. Thibaut et Maud avaient souhaité, en ces mêmes circonstances, également alléger quelque peu les tâches domestiques. Ils avaient aussi prévu de dîner dehors. Les jeunes étaient allés cette première fois sur l'île, car la perspective du parachutage en ce haut lieu touristique avait attiré leur attention sur l'intérêt d'une visite insulaire plus approfondie. La journée consacrée aux activités aériennes serait trop courte pour leur permettre de profiter de l'endroit. Ils avaient organisé cette expédition préalable sur les chemins de l'île. Ils étaient revenus fourbus et enchantés par leurs balades à bicyclette le long des plages et à l'intérieur des terres. Ce premier soir, Maud avait téléphoné depuis la voiture pour réserver 5 couverts dans une crêperie. Tous s'étaient prononcés sans réserve pour un repas de crêpes. Mais Maud avait appelé trop tard, elle avait essuyé un refus. La nuit était tombée, lorsqu'ils furent de retour à Kerbihan, Maud conduisait l'imposante limousine, une Citroën C5. Cette voiture lui donnait régulièrement l'impression de manœuvrer un tank, lourd et encombrant. Elle le gara dans le petit carré gravillonné du côté perron et de l'entrée officielle de la maison, sur la façade opposée au jardin ombragé ouvert sur l'océan. Maud n'avait pas réussi à réserver une table, la soirée était déjà bien avancée, elle n'avait pas envie que Thibault commence à prendre en charge le dîner, pas plus qu'elle-même l'animation de la conversation. Elle apprécierait le divertissement d'une ambiance de restaurant et Thibault se ferait servir, un changement serait le bienvenu. Ils descendirent de voiture et Maud entreprit d'entraîner le groupe vers le centre de Kerbihan. « Allons-y, » disait-elle, vive et enthousiaste. « On trouvera des restaurants. Ils sont nombreux, avec les touristes qui déambulent jusque tard dans la nuit. Ce n'est pas loin, on peut bien marcher un peu, on y sera vite. » Elle argumentait, mais elle peinait. Pour une mystérieuse raison, Luc, le leader incontesté des jeunes, celui qui donnait le ton et le tempo des activités, opposait une lourde résistance. « Ce n'est pas la peine, disait-il, ce sera bondé, on n'y arrivera pas. » Il fermait la marche, ralentissait le pas, faisait mine d'entamer un demi-tour. Maud insistait, elle n'avait pas grand choix. Il devait, d'une façon ou d'une autre, venir à bout de cette soirée. Elle tenait la tête du groupe, elle demeurait en apparence énergique et optimiste. Mais en réalité, à peine Luc avait-il commencé à manifester sa résistance, qu'elle s'était sentie submergée par le découragement. Le chemin jusqu'à Kerbihan lui parut immensément long. Delphine et Romain suivaient, gênés et silencieux. Un restaurant les accueillit, les crispations s'évanouirent, et le dîner fut en définitive réussi. Le risque n'était de fait pas démesuré, dès lors qu'ils avaient découvert leur table d'un soir sur une jolie terrasse face à la mer. De sympathiques jeunes gens leur avaient servi, qui des entrecôtes, des moules ou des frites, qui des pizzas, des salades ou des hamburgers. Chacun avait aisément trouvé son bonheur. Maud n'en avait pas moins, avant ce dénouement harmonieux, atteint à grande vitesse les bas-fonds de la tristesse. Elle ne l'oublia pas. Et elle espérait, deux jours plus tard, après les baptêmes de parachutage en série, que son humeur se maintiendrait fermement cette fois-ci sur la ligne de crête de la stabilité et du sourire. Maud avait mieux anticipé cette deuxième soirée qui suivrait la journée aéronautique des vacances. L'excellente crêperie de Port-en-Gif était toujours bondée. Il n'avait pu y aller deux jours plus tôt. Maud essaya de réserver dans la journée, le téléphone resta muet, elle se rendit sur place, rencontra le patron, et une table leur fut réservée sous la véranda. Les jeunes étaient dans la voiture, souriants et détendus. Sur la route de Quiberon à Kerbihan, belle île vue du ciel les avait enchantés, ils se réjouissaient des crêpes qu'ils allaient déguster. Il pensait depuis longtemps à cette perspective maintes fois reportée. Il touchait enfin au but. La morosité de Luc, susceptible parfois de se manifester relativement rapidement, semblait devoir demeurer assoupie. Ils arrivèrent, se garèrent de la même façon, dans le carré devant la maisonnette de pêcheurs, et gagnèrent à pied la crêperie du port à deux pas de la maison. L'ambiance était chaleureuse, le moral au beau fixe, jusqu'au moment où ils furent désagréablement accueillis. L'anecdote n'avait rien d'exceptionnel. La très banale malchance avait frappé. Thibault et Maud, qui passaient une part non négligeable de leur vie dans les restaurants, avaient une certaine conception du comportement censément normal d'un serveur. Ils étaient des clients aimables et respectueux, mais savaient également distinguer lorsque les bornes de l'incompétence, mêlées à une impolitesse affichée, étaient dépassées. Tel fut malheureusement le cas ce soir-là. Le travail était clairement sabordé. Le serveur ne prenait pas la commande et il préférait dresser les couverts de tables voisines, vides de convives, sans s'intéresser le moins du monde à la façon de satisfaire l'appétit ou la gourmandise, c'était selon, des valentes. La famille était attablée depuis un certain temps et le serveur ne supportait visiblement pas les remarques, en l'occurrence de Thibault. Le jeune homme se montrait discourtois. La famille aurait pu se lever dans un bel ensemble et quitter les lieux avant d'être servis, mais ils avaient enfin passé commande. Ils resteraient, dîneraient, puis partiraient au plus vite. Faut-il ajouter que, proposer au groupe d'un moment à l'autre un autre projet pour la soirée n'était peut-être pas de la première évidence. Le repas serait réduit à une seule crêpe, s'attarder davantage n'était plus à l'ordre du jour, Delphine aimait les desserts et n'avait pas l'habitude, sortant avec les valentes au restaurant, de ne pas satisfaire son péché mignon. Elle était charmante et s'adapterait, bien sûr, gentiment à la relative austérité du moment. Mais la mésaventure poursuivait tranquillement sa discrète progression. L'attitude provocatrice du serveur n'était pas acceptable. Thibault atteignait extrêmement vite, en pareil cas, l'apogée d'une sourde fureur. Il ajusta ses coups, ses crochets et ses uppercuts du droit et du gauche, au sens métaphorique du terme, cela va de soi. Il possédait un sens inné de la répartie assassine, ses attaques précises et efficaces, ses feintes et ses contres, lui étaient un jeu d'enfant. Luc observait son père, la colère s'infiltrait en lui, insidieuse, puissante et sans nuance. Il était depuis toujours incapable de tolérer la moindre remarque proférée par son père à l'encontre d'un serveur. La soirée s'acheminait de la sorte vers des sommets de réussite exceptionnelle avec le père, qui ne pouvait s'empêcher de monter au créneau, et le fils, qui justement ne supportait pas dans ce contexte la plus anodine des observations. Critiquer ostensiblement une personne se trouvant au service de, le comble de l'inélégance, pensait Luc, le rendait intimement malade. La honte, sous les regards croisés d'inconnus curieux et étonnés, allait le submerger. Il aurait voulu que son père disparaisse. L'esclandre prit de l'ampleur. Le serveur ne se le tenait pas pour dit. Il insistait, Thibault aussi. Le niveau sonore de l'altercation gagnait en intensité. Les clients dans la salle et sur la terrasse qui s'apprêtaient à profiter d'un agréable dîner ouvrirent de grands yeux, un vent de folie balayait l'espace. Qui étaient donc ces bourgeois en sortie, se permettant de vociférer dans un lieu public? Des regards furent échangés, des visages se détournèrent, le patron approcha, il demanda des explications, chacun avança son interprétation, Maud fit entendre de sa voix douce et conciliante sa version des faits, monsieur s'excusa gentiment, très platement, et très commercialement. Luc adressa d'acerbes reproches à son père. L'ambiance autour de la table était saccagée. La situation s'améliorait franchement, eu égard à une petite soirée qui s'était a priori annoncée sous les plus réjouissants augures. Ils mangèrent leur unique crêpe en silence, sortirent du restaurant et gagnèrent la maison côté mer. Luc fulminait, se taisait, mais chacun connaissait parfaitement ses sentiments. Son père, massif, envahissant et incapable de se contrôler, ne savait pas vivre. il aurait aimé l'éliminer du paysage alentour. Ils entrèrent dans le jardin, que pouvait-il faire? La perspective d'une fin de soirée, chacun dans sa chambre se précisait. Personne, cependant, n'osait proposer l'ultime mouvement de repli. Ils s'assirent les uns après les autres. Les chaises formaient un arc sous l'arbre du jardin. Maud se sentait vide d'énergie. Elle n'interviendrait pas. Aux autres de prendre le relais. Elle suivrait l'éventuel mouvement qui peut-être, mais rien n'était moins sûr, résulterait de cette écrasante affliction. Elle serait d'accord en ce cas, bien évidemment. Sans discuter, elle était épuisée, elle attendait. Le temps passait, la conversation fit mine de gagner un semblant de vigueur. Chacun tentait à sa façon de bricoler un début de réparation improvisée. Puis le silence s'appesantit plus lourd encore, sous de légers nuages qui zébraient le ciel d'été. La lune blanchissait la nuit, la ramure du pin maritime oscillait au-dessus des visages dont les regards fixaient le sol, quand une voix bien timbrée se fit distinctement entendre. « Eh bien, qu'en diriez-vous ? » demanda Romain, le benjamin du groupe. « Si on se faisait un petit Hercule, il disait Hercule, il voulait dire Hercule Poirot, chacun l'avait compris. Maud n'en crut pas ses oreilles. La proposition n'était pour une fois pas de son fait. Elle était celle qui, de réputation familiale, manifestait toujours un exubérant enthousiasme pour qu'ensemble ils voyagent par la télévision, les films ou les séries, entraînés qu'ils seraient alors, selon elle, par la musique et les images, les dialogues et le suspense. Elle y était si immanquablement favorable qu'il lui arrivait d'être gentiment moquée, voire même d'être la cible de quelques blagues, un rien condescendante. La décision collective qui en résultait ensuite le plus souvent poussait le groupe à entamer une partie de cartes. Maud s'adaptait avec un empressement égal. Le jeu n'était-il une autre façon de voyager ensemble sur le chemin du temps? C'est une superbe idée, s'exclama Maud, vive et alerte, heureuse d'être la première à approuver Romain. « Allons-y, bien sûr, ne perdons pas de temps. » La proposition, un évident signe d'apaisement, fut promptement acceptée. Gêne et perplexité disparurent de l'horizon familial. Le canapé fut déplacé devant la télévision, les paquets de bonbons sortis des placards, et chacun se prépara, confortablement installé, à savourer l'harmonie et le calme. Ces précieuses qualités n'avaient été tout compte fait que brièvement troublées.